Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Selon la Cour de cassation, rien ne s'oppose à l'arrêt des traitements administrés à Vincent Lambert. Réaction ce soir du Premier ministre Édouard Philippe. Il faut respecter ce que disent les médecins et ce que dit la loi sur une situation qui est sans issue sur le plan des soins. Également au sommaire, témoignage de grands-parents qui ont tout fait pour rencontrer leurs petits-enfants dans un camp du Kurdistan syrien où survivent des familles de djihadistes capturés ou bien morts au combat. Les nouvelles missions de l'ONF appelées au front de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis invité de cette édition, le géopolitologue Marc Lavergne pour décrypter influences étrangères et rapports de force entre instances civiles et militaires au Soudan. La Cour de cassation a donc ouvert la voie à un nouvel arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, maintenant en vie Vincent Lambert, l'homme tétraplégique et dans un état végétatif depuis 10 ans, après un accident de voiture et l'objet d'un combat judiciario familial depuis 6 ans. Ses parents sont contre l'avis des traitements, sa compagne y est favorable, Antoine Marette.
Sans grande surprise, la Cour de cassation a donc cassé la décision de la Cour d'appel de Paris en la déclarant incompétente dans cette affaire. C'est donc logiquement l'arrêt du Conseil d'État qui s'impose, à savoir l'arrêt des traitements de Vincent Lambert. Cela signifie-t-il l'épilogue judiciaire de cette affaire? C'est en tout cas l'avis des avocats de l'épouse de Vincent Lambert pour qui plus aucun recours ne subsiste désormais. Et effectivement, on imagine mal un nouveau rebondissement judiciaire, même si dans cette affaire, les coups de théâtre ont bien souvent été au rendez-vous. Les avocats des parents de Vincent Lambert ne déclarent pas pour autant forfait. Ils menacent de poursuites pour meurtre avec préméditation son médecin en cas d'arrêt des traitements. Pour le moment, le CHU de Reims, où est hospitalisé Vincent Lambert, refuse de commenter la décision de la Cour de cassation.
Et Antoine, vous avez sollicité l'avis de maître Madeleine Munier-Appert, l'avocate du neveu de François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, lui, favorable à un arrêt des traitements.
D'un point de vue judiciaire, il est clair qu'une décision d'assemblée du Conseil d'État, il y en a déjà eu deux. Une décision d'assemblée plénière de la Cour de cassation, donc la formation la plus solennelle du juge judiciaire, a été rendue. Et des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, y compris deux décisions ces deux derniers mois, montrent que tous les recours ont été exploités et exercés. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun recours judiciaire valable. Toutes les plus grandes Cour suprême se sont prononcées dans la formation les plus solennelles. Et les arrêts ont été extrêmement clairs. Il faut aussi être très vigilant à ne pas faire d'amalgame entre la situation de Vincent, qui a seul été examiné et jugé ici, et le cas d'autres personnes. Évidemment, cette décision judiciaire ne concerne que Vincent. Tous les juges l'ont expressément rappelé à chaque fois. Donc maintenant, le docteur Sanchez peut exercer, je l'espère, de façon sereine et qu'il n'y aura plus d'excès de la part des parties adverses pour mettre autant de pression sur les épaules de ce médecin, de son équipe et du CHU qui se dévoue depuis des années et des années.
Des mesures progressives envers les bailleurs ne rénovant pas les logements dits passoires thermiques plutôt que des sanctions d'emblée. L'Assemblée nationale a adopté cet après-midi un compromis proposé par le gouvernement et la majorité. Salué ce compromis par le secteur immobilier mais fustigé par la gauche et les organisations environnementales. Un cauchemar humanitaire, plus de 500 morts, plus de 350 000 personnes déplacées, 11 ONG impliquées dans une campagne mondiale de sensibilisation appellent les grandes puissances à d'urgence peser auprès des belligérants dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest syrien, où s'affrontent depuis des mois l'armée syrienne, appuyée par ses alliés russes, et des groupes djihadistes dont Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Au Kurdistan syrien, point de frappes incessantes, mais des conditions de vie difficiles dans les camps de réfugiés, qui plus est pour les enfants et les proches des djihadistes capturés ou morts au combat dans le camp de Roj, plusieurs dizaines de ressortissants français. Sophie Parmentier a rencontré un couple de grands-parents. Ce couple s'est rendu sur place pour rendre visite à leurs petits-enfants.
Oui, ils s'appellent Monsieur et Madame Lopez, 63 et 65 ans, couple d'éducateurs à la retraite. Ils sont les parents d'un fils parti rejoindre Daesh en 2015 et qui a été condamné à la peine de mort en Irak il y a tout juste un mois. C'est juste après ce procès express auquel ils n'ont pas pu assister que les Lopez ont décidé de partir dans le camp de Roj, au Kurdistan syrien, où sont retenus avec leur belle-fille leurs 4 petits-fils de 9 ans, 5 ans, 3 ans et 8 mois. Ils voulaient juste les serrer dans leur bras, les réconforter, comme ont d'ailleurs pu le faire sous leurs yeux d'autres grands-parents, autrichiens et suédois. Mais les Lopez racontent qu'eux ont été bloqués par les Kurdes à la porte du camp.
La Suédoise et les Autrichiens ont pu rentrer dans le camp, voir leurs filles et leurs petits-enfants pendant une heure et demie. Nous, on nous a fait attendre et on nous a dit clairement que nous n'aurions pas accès au camp et que cette décision ne provenait pas des autorités kurdes. Elle provenait, nous a-t-on dit, de la coalition et de la France.
Les Lopez avaient apporté pour leurs petits-enfants des valises pleines de médicaments, de livres et de jouets avec des biberons pour le dernier-né, né sous la tente cet hiver. Ils ont fini par avoir le droit de déposer un bagage, mais on leur a ordonné de s'éloigner aussitôt du camp et ils ont dû se résoudre à repartir sans avoir pu parler à leurs petits-enfants jusqu'à ce qu'ils les aperçoivent derrière le grillage.
Nous avons vu à une certaine distance au loin deux petites silhouettes contre la grille. On a reconnu les deux aînés de nos petits-enfants. On a été jusqu'à eux, on a pu les embrasser à travers la grille, les toucher. Mais ça a été un moment extrêmement bref. Au bout d'une minute, de deux minutes, les gardes s'en sont aperçus. Ils ont accouru vers nous. Ils nous ont demandé de nous en aller.
Mon mari a pu embrasser l'aîné. Moi, j'étais derrière. J'ai pu juste lui parler, lui dire qu'on l'aimait, qu'on était là pour lui, pour ses frères aussi. Et qu'on pensait tout le temps à eux. Et on espère vraiment qu'ils rentrent vite parce qu'ils sont en train de s'abîmer. Pourquoi cette injustice pour des enfants innocents?
Les Lopez viennent d'adresser une lettre à Emmanuel Macron avec copie au ministre des Affaires étrangères et à la ministre de la Justice. Une lettre dans laquelle ils demandent au président de la République le rapatriement de leurs petits-enfants et de tous les enfants français prisonniers au Kurdistan syrien.
Un reportage signé Sophie Parmentier. Un sommet riche en amabilité entre chefs d'État et de gouvernement, le G20 d'Osaka, à Vladimir Poutine qui déclare au Financial Times que le progressisme a vécu. Le président français Emmanuel Macron et le président du Conseil européen Donald Tusk répondent que les démocraties libérales ont encore beaucoup à faire et à apporter. Fin de citation. À venir à Osaka, un face-à-face Donald Trump-Xi Jinping. En Éthiopie, le porte-parole d'un parti politique défendant les intérêts de la communauté Amara a été arrêté aujourd'hui. 250 arrestations depuis le putsch avorté du week-end dernier. Au Soudan, depuis quelques jours, conférences et rassemblements nocturnes ponctuent la contestation. Il s'agit de ne pas céder aux coups de force et autres redoutables intimidations des mercenaires à la solde de certains membres du conseil militaire, dont son numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo, émetti de son nom de guerre. La contestation, tout comme les instances militaires, ont en main un nouveau plan de médiation émis par l'Union africaine et des médiateurs éthiopiens. Nous sommes, comme convenu, en ligne avec Marc Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Marc Lavergne, quel avenir prêter justement à cette nouvelle tentative de médiation compte tenu de la composition du Conseil militaire ?
Oui, alors le Conseil militaire lui-même est dirigé par le général Al-Burhan, Abdel Fattah Al-Burhan, mais son second est l'homme fort vraiment de ce nouveau régime qui essaie de se mettre en place. C'est Hemeti, de son nom de guerre, qui lui n'a pas de grade militaire. C'est un hors-la-loi, si vous voulez, qui a formé, avec l'aide de l'appareil de sécurité du régime précédent, il a réuni des troupes qui sont maintenant au nombre de près de 80 000 hommes, c'est-à-dire une force non professionnelle de bandits, de grands chemins, de hors-la-loi, de gens qui ont été recrutés dans tout le Sahel ou bien qui viennent vers le Darfour, sa région d'origine, parce qu'ils sont attirés par les pillages, les prédations diverses que cette bande de hors-la-loi peut faire. Et maintenant, ils servent de mercenaires à l'Arabie Saoudite, ce qui a fait la fortune de Hemeti. Donc, il y a au Yémen près de 10 000, 6 à 10 000 soldats, entre guillemets, soudanais, qui sont issus de cette force qu'on appelle la RSF, Rapid Support Forces. Donc, ce sont des gens qui ne sont mus que par l'appât du gain et pas du tout par un esprit de corps ou bien par un souci de la nation. Donc Hemeti vise à prendre le pouvoir à Khartoum, à écarter le général qui est là sur le devant de la photo, et c'est quelque chose qui commence à faire très peur, non seulement aux civils qui sont dans la rue depuis maintenant plus de 6 mois, mais aussi à l'armée régulière qui qui se voit menacée d'être dépossédée de toutes les prébendes dont elle vit depuis 30 ans, depuis que le général Omar al-Béchir a pris le pouvoir.
Alors Marc Laverne, oui, il faut dire que le Soudan, son avenir plutôt, ne se joue pas à l'intérieur du pays, mais hors les murs.
On a cette impression de plus en plus, hein, dans la mesure où justement l'armée qui occupe officiellement le pouvoir est aujourd'hui, elle a derrière elle ces gens qui sont incontrôlables et qui sont manipulés par l'Arabie Saoudite, hein, et peut-être aussi par les Émirats qui sont assez discrets pour l'instant, mais l'Arabie Saoudite avec le prince héritier Mohamed Ben Salman cherche à contrôler la mer Rouge. Il y a de grands projets à la fois sur le contrôle de cette voie de communication que la mer Rouge, mais aussi dans ce nouveau Scramble for Africa, hein, ce combat qu'il y a, ce combat de géants pour le contrôle des richesses de l'Afrique, des richesses minières, des richesses agricoles, avec en toile de fond d'un côté les États-Unis et d'un autre côté la Chine. Ça se joue aussi sur le terrain africain et en particulier en ce moment au Soudan. Hein, le Soudan est un pays potentiellement riche, mais surtout c'est une porte d'entrée vers le Sahel et vers l'Afrique. Donc les Américains se sont émus et ont mobilisé l'Union africaine, ont mobilisé le Premier ministre éthiopien qui a pourtant d'autres soucis actuellement à gérer dans son pays.
Dans l'état d'Amara, mais aussi dans la capitale Addis-Abeba.
En effet, bon, il y a aussi des manœuvres là sans doute sous-jacentes qui cherchent à déstabiliser ce nouveau géant de l'Afrique qu'est l'Éthiopie. Et néanmoins, M. Abiy Ahmed s'est déplacé à Khartoum pour essayer d'imposer une stabilisation du Soudan. C'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui, peut-être pas les Saoudiens, mais en tout cas les Américains, les Européens qui sont totalement impuissants comme d'habitude. Mais l'idée est d'arriver à un compromis plus ou moins égal entre les forces qui représentent la population et puis l'armée régulière, de manière à essayer d'écarter ce danger que représentent les forces de déploiement rapide, hein, ces rapid support forces, qui ne vivent que du trafic des migrants, de l'exploitation des mines d'or, et qui pillent la population, surtout dans les campagnes, hein, et en particulier au Darfour.
D'un dernier mot, Marc Laverne, car le temps presse. Que penser justement de la contestation qui se donne les moyens pour ne pas s'éteindre d'organiser des rassemblements de nuit? A-t-elle un avenir selon vous?
Oui, je crois que les gens à Khartoum en particulier sont mobilisés depuis plus de 6 mois maintenant. Ils ont réussi à passer le cap du Ramadan, qui était une période extrêmement difficile physiquement, hein, et ils ont maintenant ils n'ont plus rien à perdre, et je pense qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Donc la mobilisation, elle faiblit en apparence en nombre, mais les nouvelles méthodes d'intervention, comme le fait de manifester la nuit, c'est quelque chose qui montre qu'ils ont encore de la ressource intellectuelle, et surtout que toutes ces composantes très diverses de la société civile soudanaise arrivent encore à fonctionner ensemble, et ces manifestations de nuit, elles permettent à la fois d'éviter la chaleur, mais aussi d'éviter peut-être les tirs des gens qui seront en face d'eux.
Merci à vous Marc Laverne d'avoir accepté notre invitation. Retour en France avec cette température relevée dans le sud, dans le Gard, 45,8 degrés relevée aujourd'hui. Jamais pareille température n'avait été enregistrée en métropole. Les prévisions pour l'année 2019 ne sont pas très enthousiasmantes. Quel outil privilégié pour lutter contre le réchauffement climatique galopant? Parmi nos principaux atouts, la forêt. Eh bien, un rapport interministériel a été remis en toute confidentialité ou presque, c'était hier. Et ce texte va décider des nouvelles missions de l'Office national des forêts. Les précisions d'Anne-Laure Chouin.
Confié à une mission interministérielle, ce rapport est censé évaluer le contrat d'objectifs et de performance de l'ONF qui a atteint son plafond d'endettement, 400 millions d'euros, et qui emploie 9000 personnes, des effectifs qui ont fondu depuis 15 ans. Ce rapport, si l'on en croit le communiqué rendu public par les ministères concernés, devrait voir l'ONF conforté dans ses missions, notamment au niveau des communes forestières, des communes assistées par l'ONF sur la gestion de leurs forêts, qui se voient depuis plusieurs années déjà obligées de payer à ce même ONF des services qui étaient autrefois rendus gratuitement. Anne-Catherine Loisier est sénatrice centriste de Côte d'Or et auteur d'un rapport sénatorial rendu il y a quelques jours à peine sur le même sujet. Elle pointe elle aussi la difficulté des rapports entre l'ONF et les collectivités forestières.
La forêt, c'est un secteur dans lequel les élus et les citoyens sont de plus en plus vigilants Et donc, on a de plus en plus ce qu'on appelle de stratégie locale de développement forestier. Et ça, c'est piloté par les élus. Et donc, les élus ont voulu s'emparer de plus en plus de leur potentiel, de leur forêt. Et parfois, ça s'est un peu heurté avec un ONF, des agents sur le terrain, qui avaient eu le sentiment que c'était à eux qui pilotaient.
L'ONF, dont le budget est assis sur les ventes de bois. Or, les cours du bois stagnent depuis plusieurs années, sans compter que ce système met en péril les services d'intérêt général rendus par l'Office dans un contexte de réchauffement climatique. Et alors que la forêt est un élément essentiel de la lutte pour le climat, il faut que l'État réabonde le budget de l'ONF, pointe la sénatrice. On saura dans les prochains jours si l'État est du même avis.
Anne-Laure Chouin, canicule suite. Le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge canicule. Jusqu'à dimanche matin, 75 autres départements en France sont toujours en alerte orange. Édition préparée avec Caroline Beneteau à la technique, c'était Anthony Thomasson.